Bonjour, bienvenue dans cette table ronde qui va donc commencer tout de suite sur frontières et migration, ces lignes imaginaires qui découpent le réel. Nous sommes ici dans un thème qui malheureusement est donc complètement dans l'actualité et nous allons aujourd'hui essayer justement de voir comment la science-fiction a pu traiter cette thématique hein, ou cette problématique. Avec donc trois invités prestigieux. Donc nous avons Norman Spinrad, Alain Damasio et Catherine Dufour. Donc je pense que nous allons croiser évidemment la littérature américaine avec la littérature française. Donc je vais d'abord présenter nos intervenants dans un premier temps. Je vais commencer par Norman. Hein, place peut-être aux aînés. Norman Spinrad. Donc c'est moi, j'appelle ça une légende de la SF, une légende de la science-fiction. Il est né en 1940. Il est auteur d'une vingtaine de romans, traduits en plus de 12 langues et d'une soixantaine de nouvelles. Et il fit scandale en 1969, ça commence à être un petit peu loin, avec la publication de Jack Baron, donc Jack Baron et l'éternité, une œuvre absolument fascinante sur le pouvoir des médias face au pouvoir politique. Puis vient en 1972, moi j'adore ce roman, hein, personnellement je le dis ici, mais pour moi c'est vraiment un roman très très fort, The Iron Dream, Rêve de fer, une histoire autour du nazisme et d'un ouvrage prétendument écrit par Hitler. Interdit d'ailleurs en Allemagne pendant 8 ans, ce roman a remporté en France le prix Apollo et a été nominé aux États-Unis pour le National Book Award. Et Norman Spinrad s'est vu décerner le prix Utopia 2003 pour l'ensemble de son œuvre. Et c'est un invité très très régulier, évidemment, des Utopiales. Presque toutes les éditions, Norman, c'est ça ?
Toutes
les éditions. Voilà, alors ensuite, Alain Damasio, que vous connaissez certainement, mais que je vais quand même présenter. Donc Alain Damasio, eh bien, publie à 26 ans La Zone du Dehors, qui est un roman d'anticipation politique sur les sociétés donc, de contrôle aux éditions de La Volte, et qui remporte en 2007 le prix européen Utopial. Son second livre, La Horde du Contrevent, succès critique et public, avec plus de 100 000 exemplaires vendus, ce qui est quand même un très beau chiffre, évidemment, pour la science-fiction. Enfin, d'ailleurs, est-ce de la science-fiction ? Voilà, ce ne sera pas le sujet, mais on peut se poser la question. Donc, va obtenir le Grand Prix de l'Imaginaire, et il est devenu en 10 ans, donc Alain Damasio est devenu en 10 ans une véritable référence de la science-fiction contemporaine. En 2012, sort son premier recueil de nouvelles, Aucun souvenir assez solide. Depuis, Alain Damasio s'est ouvert à la scénarisation et à la création sonore, cinéma, jeux vidéo ou création radiophonique, avec notamment le jeu d'action-aventure Remember Me et le projet Phonophore, une mise en voix et en son de l'univers de son prochain roman, Les Furtifs. Et enfin, récemment, il a été à l'origine de la création d'un important projet d'univers transmédia SF appelé Fusion, avec 5 autres artistes, dont Norbert Merjanian et Catherine Dufour. Et donc, ça va me permettre de faire une très belle transition. C'est pour ça que j'ai présenté dans cet ordre-là. Avec Catherine Dufour. Alors, Catherine Dufour, eh bien, là aussi, je suis fière de présenter une écrivaine de science-fiction française qui est vraiment très talentueuse. Au départ, dans la vraie vie, elle est ingénieure en informatique et elle est toujours chroniqueuse au Monde diplomatique, Catherine. Voilà, donc toujours chroniqueuse au Monde diplomatique. Elle a publié en 2001 un livre de fantasy humoristique ou burlesque intitulé Blanche-Neige et les lance-missiles, qui est extrêmement drôle et vraiment un roman très jouissif de par, je dirais, le décalage et le jeu qu'elle fait sur les références littéraires, suivi de trois autres tomes de la série Quand les dieux buvaient. Elle a ensuite publié des ouvrages de science-fiction, vraiment très très bien aussi, notamment Le goût de l'immortalité, Grand Prix de l'Imaginaire 2007. Et enfin, elle a changé un petit peu là récemment, elle est entrée en 2012 chez Fayard avec L'histoire de France pour ceux qui n'aiment pas ça, ou encore La vie sexuelle de Lorenzaccio, sortie en 2014 et qui est son 11e ouvrage. Voilà. Donc est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, ça va ? C'est à peu près tout. Merci. Alors, nous allons donc commencer cette table ronde. Moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu avec nos intervenants sur cette notion de frontière. Parce que la frontière, évidemment, au départ, c'était vraiment un des éléments essentiels de l'imaginaire américain. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il fallait tout simplement repousser la frontière vers l'ouest, puis ensuite, il a fallu repousser la frontière dans l'espace, évidemment, avec le développement de la conquête spatiale aux États-Unis. C'était vraiment quelque chose de très important. Alors moi, la question que je voudrais poser donc à nos intervenants, c'est est-ce que finalement, la science-fiction américaine a transcendé cette notion de frontière et est-ce qu'elle a véritablement peut-être, ou la science-fiction en général, a aboli la frontière ou les frontières? Well, Norman?
Well, beaucoup de choses. les États-Unis, c'est une civilisation qui commence à la côte est. At the east coast of North America, and it moved westward. And there was a whole political myth of the frontier, manifest destiny. It's an empty place. It is ours, and we'll just get rid of these Indians. So what you really have when you're talking about a frontier, and the same thing with, say, Britain and France in Africa, yes, and with Britain and India and so forth. So the front, what one person's frontier, what one culture's frontier is another culture's invasion. And I think that much of human history in the past is the story of the conflict of two civilizations. One moves in on the other. Alexander the Great goes eastward to India. Cortez goes to Mexico. I wrote a whole novel about this called Mexico. And so that the frontier is an interface between two cultures, two civilizations. And the history is usually written by the winners, as it always is. So the myth, the American myth, manifest destiny, the movement west, this is the American myth. As Timothy Leary said to me once, America always went west until they got to the ocean and California, and that's when the frontier became space. Became, you can't go any further west, so you got to go up. At that point, he was trying to sell condos that in satellites that didn't exist. But that is a very fundamental fundamental myth and fundamental. Fundamental power politics of human history. You see it in the 2,000-year-old war between Christianity and Islam, which we are still involved heavily in. So it's one thing to look at a front, but usually when people talk about a frontier, they're talking about a place that they can take over because it's empty, except for these barbarians or Indians or whatever other kind of inferior people lived in that culture. There was a very good cartoon about the Puritans coming down to Plymouth Rock and the ship is coming in Massachusetts, and a couple of Indians are standing on the rock, and they say, look, one says they are, looks like there goes the neighborhood. So I think that the frontier, at least on the planet Earth, really does not escape this kind of clash of civilizations, which is the main motor of human history. Now, in Star Trek, you know, it's the final frontier to go where no one has gone before. And the original Star Trek, Gene Roddenberry understood this stuff.
Au-delà de l'univers, peut-être, même des frontières de l'univers. Est-ce qu'il y a des frontières à l'univers?
But the idea there with the Federation and with the kind of politics of the original Star Trek that was really Gene Roddenberry's thing was not to interfere in these other cultures. It wasn't a matter of conquest. It was to go where no one has gone, where no man or women or whatever have gone before. But it was a frontier, an infinite frontier, but not necessary. But the social politics of the original Star Trek, Gene's stuff, was strongly anti-colonialist, strongly anti-colonialist. And, you know, the Prime Directive was a very important part of that. So I think when you talk about the frontier, you're talking about some very complicated world politics.
Merci, Norman. Alain?
Ouais, j'aime beaucoup ce que dit Norman, parce que ça me paraît fondamental sur la science-fiction. Je pense qu'on peut également élargir. C'est vrai que la frontière, bon, c'est un thème absolument majeur dans ce qu'on fait. C'est bien sûr une interface, il l'a très bien dit. Et pour moi, la science-fiction, alors il y a des milliards, comme on le sait, de définitions de la science-fiction, mais une que moi j'aime bien et que dans laquelle je me reconnais, c'est de dire que la science-fiction, c'est une littérature de l'altérité. Voilà. C'est-à-dire que c'est une littérature qui constamment se confronte à l'autre. Mais sauf que l'autre, c'est pas simplement le pauvre quand on est riche ou le riche quand on est pauvre, c'est pas simplement une autre civilisation. Ça peut être un animal, ça peut être une créature complètement inhumaine, ça peut être un robot, ça peut être une entité, ça peut être énormément de choses, quoi. Et on se place comme ça sur cette frontière, généralement, et je pense que tous les bons livres sont fondés là-dessus. C'est-à-dire qu'on est des limitrophes ou on est des frontaliers. Voilà. C'est-à-dire qu'on se met sur cette frontière et on essaye de s'ouvrir à quelque chose qui n'est pas la familiarité, qui n'est pas le quotidien, qui n'est pas ce qu'on vit tous les jours. Voilà. Et notre travail est là. Et notre travail est sur la bordure. On surfe comme ça sur la frontière. Donc il y a un très beau mot comme ça de Norbert Merjanian, qui est dans la salle d'ailleurs, je crois. Il parle d'un espace altérieur comme ça. C'est pas intérieur, c'est pas extérieur. C'est un espace altérieur, c'est un espace d'altérité dans lequel on va se battre, on va se confronter, on va inventer. On va essayer de faire parler les animaux, les végétaux, les entités, les robots. On va essayer de se mettre à la place de ces machines-là, d'une IA. Et on est constamment comme ça, à cheval sur la frontière. Et je pense que c'est une des grandes forces et une des grandes beautés de la science-fiction. Voilà.
Bon, merci. Merci Alain. C'était un petit peu ma dernière question, mais c'est pas grave. Donc, Catherine. Non, mais ça fait rien, on va y revenir. Catherine.
Oui, moi, je vais pas être très originale parce que je suis totalement d'accord avec ce qu'ils viennent de dire. Il faut être des frontaliers. On peut voir le monde comme un ensemble de nids dans lequel chacun vit avec d'autres personnes qui ont une même culture. Et ces différents nids doivent coexister. Le problème de la frontière, c'est que c'est une ligne nette. La seule façon pour qu'il y ait la paix, la joie et la prospérité dans le monde, c'est qu'il n'y ait pas de ligne nette. Parce que du coup, on va pas voir ce que fait l'autre. Et dès qu'on voit pas ce que fait l'autre, qu'on ne vit pas avec, on en a peur et on imagine une bande de rustres mal lavés qui veulent égorger nos fils et nos compagnes. Alors que si on vit à la zone frontalière et qu'on passe son temps à faire l'effort de comprendre des gens qui sont pas exactement comme nous, et s'il y en a une grande diversité, à ce moment-là, on acquiert de la confiance en soi, on acquiert de la curiosité, on s'enrichit les uns les autres. C'est pour ça que je suis farouchement opposée au communautarisme et que je pense que si un jour cette planète arrive à vivre en paix, c'est parce qu'il n'y aura plus de frontières. Ça ne veut pas du tout dire qu'il y aura une sorte de culture commune à tous, c'est qu'il y aura une respiration harmonieuse de toutes les cultures les unes avec les autres.
Alors justement, moi j'avais envie de vous poser comme question les frontières dans la SF ou peut-être aussi dans la réalité, est-ce qu'elles représentent uniquement, peut-être finalement, la peur de l'autre ou pas ? La question c'est pourquoi établir des frontières finalement ? À quoi ça nous sert de peut-être circonscrire un espace, un pays ? Catherine disait, oui, effectivement, ça peut aussi se situer à l'échelle d'une communauté. Donc voilà, la question que j'avais envie de vous poser, c'est ça. Est-ce que c'est uniquement la peur de l'autre ou est-ce qu'il y a d'autres choses derrière ? Pourquoi l'humain est-il si fondamentalement attaché à cette notion de frontière ?
Well, I think there are two fundamental streams here of science fiction, science fantasy, fantasy. And I think it's also one of the great distinctions between the kind of core aesthetic of science fiction versus the core aesthetic of fantasy, and the core aesthetic of much so-called mainstream fiction. And that is, as we were saying, is how one regards the other. The other, you know, the other species, the other planet, the other, you know, the other, and much fantasy and much so-called science fiction in film, particularly, is fear of the other, is hatred of the other. That's Star Wars, you know, kill the faceless robots, kill this, kill that. The video games you see, the vampire movies, the zombie movies, all that stuff, and a certain amount of written science fiction, particularly written fantasy, is about fear of the other, of the different. The other side of science fiction is the fascination with the other. Even not just the acceptance of the other, but the passion to meet the other, to have some relationship with the other, whether it's aliens or people from the future or whatever. And I think that's like a fundamental cleavage between science fiction, most science fiction, a certain kind of science fiction, and much fantasy, and a certain amount of science fiction. Do you fear the other, or do you welcome the other? And we see right now the positive side of this, which NASA and European Space Agency, and now India and Japan and China are trying to detect the other civilizations out there in our galaxy, which we're pretty sure right now must be there because of what we now know about planets. All the excitement, even about Pluto, which is probably not a live planet. So there is that passion for meeting the other, for greeting the other, for learning from the other, for whatever. And on the other side, you have a kind of colonialist, fascist, paranoid fear of the other. You certainly see this in what's going on now with all the people pouring out of Syria into Europe. And I wish I could remember the name of the book, but Wolfgang Jeschke wrote a great book in German, which was translated in English. I don't know if it's been in French. I can't remember the name of it, and they probably changed it anyway, which is about a future in which people from North Africa, are doing exactly what is happening now. He predicted the whole thing. And the question of whether this is the fall of, you know, Western civilization, Western Christian civilization. You now have, of course, a very popular, if that's the word, book by Michel Houellebecq, which, however cynically, is doing the same thing. So do you fear the other?
Vous pensez au roman Soumission, c'est ça, hein? Bien sûr, hein? Donc le roman, le dernier roman de Michel Houellebecq, Soumission, hein, qui est apparu il y a quelques mois.
So that's my take. I think it's that's a dialectic within what we would call SF between fear of the other and fascination and welcoming the other because they are the other, which is also a kind of thing I think that distinguishes the literary, to some extent cinematic, culture of speculative fiction versus so-called mainstream fiction.
Oui. Alain?
Je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il dit et je trouve ça tout à fait pertinent et profond. J'ajouterais d'autres choses à ça, c'est-à-dire que pour moi, il y a un véritable problème de maturité et on le voit dans les jeux vidéo de type FPS, des jeux où on passe son temps à tuer l'autre ou des types zombies. C'est-à-dire que pour moi, il y a une première couche, effectivement, sur laquelle on trace une frontière, on trace de façon binaire deux mondes, et l'autre monde est celui qui doit disparaître. L'autre monde est celui qui doit être éliminé. Et ça, c'est le rapport niveau zéro à l'autre. C'est un rapport qui est effectivement fondé sur la peur, qui est fondé sur l'absolue incapacité à s'ouvrir. Et on a malheureusement encore énormément de récits de science-fiction, énormément d'univers de science-fiction qui sont construits là-dessus. Et énormément de gameplay qui sont fondés sur le fait de tuer, éliminer l'autre. Voilà, la plupart des jeux de guerre sont fondés là-dessus. Et puis il y a une science-fiction qui me paraît plus élaborée, plus riche, plus forte, qui effectivement fonctionne non seulement sur la fascination, mais sur le désir aussi de l'autre, et qui, à travers ce désir, crée ce qu'il y a de plus beau et de plus intéressant pour moi en science-fiction, c'est-à-dire cette logique du devenir, voilà, telle que Deleuze l'a très bien posée, c'est-à-dire que tout d'un coup, le personnage principal devient un arbre, devient un animal, le robot devient un être humain. Et le nombre de textes qui sont extraordinaires pour essayer d'interroger l'empathie humaine et ce qu'il y a de spécifiquement humain en nous partent de l'idée que le personnage principal est une IA ou est un robot et que progressivement il va rentrer dans un devenir humain. Voilà. Et ça, c'est passionnant parce que ça permet d'interroger effectivement notre nature profonde et ce qu'elle a d'extrêmement riche, quoi. Et évidemment, ces sujets-là touchent une approche politique de la SF. Forcément. On est en plein dedans. On est même au cœur du problème. Et pour nous, écrivains de SF, on a une responsabilité extrêmement forte quand on pose un moteur dual, un moteur manichéen, parce qu'on le fait sans arrêt, parce qu'on en a besoin. Il faut savoir que quand vous écrivez, vous avez besoin de créer des conflictualités, vous avez besoin de poser des personnages principaux ou des univers, et face à ces univers, des choses qui s'y opposent. C'est même le premier principe qu'on apprend en scénario, créer des obstacles, créer des conflits, créer quelque chose qui s'oppose à la quête du héros. Donc c'est presque consubstantiel à la création de récits. Sauf que cette opposition, si vous la maintenez comme un simple massacre, une simple colonisation, une simple élimination de l'ennemi, vous ne faites pas votre boulot. Et vous ancrez dans les imaginaires des gens le fait qu'on n'a pas à se soucier des autres, il faut simplement les éliminer parce qu'ils ne sont pas comme nous, quoi. Voilà. Et donc, il y a un combat des imaginaires qui se met en place, et je trouve que là-dessus, les blockbusters américains sont tragiques la plupart du temps, et ils citaient Star Wars, et Star Wars est tragique à ce niveau-là. Effectivement, on n'arrête pas de tuer des espèces d'êtres humains sans visage, c'est même pas ces êtres humains. Donc il y a un rapport à l'altérité qui est complètement nié, et on pourrait citer une liste comme ça de films qui sont fondés là-dessus. Alors que forcément, ce qui est intéressant, c'est effectivement le moment où sur la frontière, on s'ouvre à l'autre, on se confronte à l'autre, on apprend de lui, il nous change, il nous modifie. Et ça donne des trajectoires en plus de personnages 10 fois plus intéressantes, parce que l'arc du personnage qui généralement part de très loin vis-à-vis de l'étranger, et tout d'un coup influencé, contaminé au sens positif, de façon virale, de façon personnelle, et devient ce qui, au départ, il combattait, quoi. Et là, on a des trajectoires de récits intéressants. Donc c'est vraiment un enjeu à la fois politique et, je dirais, de qualité artistique, d'être capable de faire rentrer l'altérité dans nos récits. Ouais. Oui.
Juste avant de donner la parole à Catherine, quand j'étais adolescente, il y a justement sur ce thème-là, il y a un roman de Al Clément qui s'appelle Enemy Mine qui m'avait énormément frappée. C'est-à-dire une confrontation entre un humain qui est donc complètement enfermé avec un extraterrestre. Il ne comprend absolument pas ce qu'il dit. Ils ont des références culturelles totalement différentes. Et petit à petit, ils vont aller l'un vers l'autre parce qu'en fait, cet extraterrestre est une femelle et donc va accoucher. Et donc, l'humain va l'aimer complètement. Voilà. Catherine ?
Oui, alors... Bis repetita, moi j'agrée complètement à tout ce qui vient de se dire. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'extrêmement déplaisant dans toutes ces, notamment les films de SF où l'ennemi est un clone, donc on peut le tuer, c'est pas grave, hein, c'est pas gênant. On a ça effectivement aussi avec les zombies. On a ça beaucoup, alors dans, là c'est de la fantasy, avec les orques de Tolkien. Qui sont, alors il y a les Sudorons qui viennent du sud, donc forcément c'est le mâle, et en plus ils ont un turban, on ne voit pas leur visage. Et de même, les orques ont des visages qui sont en fait en forme de homme, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'expression à part quelquefois des expressions de haine, de rage, de détestation. Et du coup, on peut les tuer sans se poser aucune question éthique ou métaphysique. La rencontre ne se fait pas et l'intérêt de la chose est extrêmement limité intellectuellement et spirituellement parlant. Et ça m'avait tellement agacé que j'avais mis ça dans un de mes livres. C'est l'immortalité, moi, 6 minutes, donc c'est de la fantasy. Et où j'avais imaginé un hors-champ des 3 films du Seigneur des Anneaux, où il y a des fées qui suivent en fait Frodon, Parce que dans le film, je ne sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois que Frodon commence à, enfin Sam commence à faire à dîner à Frodon, ils se prennent une catastrophe sur la figure et ils plantent là leur dîner pour fuir. Et j'ai imaginé trois fées qui les suivent pour manger leur dîner, finalement, à chaque fois qu'ils le laissent tomber. Et j'ai imaginé qu'ils arrivent dans la Moria et elles passent par l'étage du dessus. Et l'étage du dessus, c'est la crèche gobelin. Parce que les gobelins, ils les dessoudent par paquets de 100 000 sans jamais se poser la question. Si jamais il y a des hommes en armes, c'est que derrière, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des vieillards, il y a des zones démilitarisées. Et elles sont elles-mêmes accompagnées par un teenager orc qui s'appelle Ertutitu et qui se réveille un excellent chasseur-cueilleur qui arrive, comme tous les orcs, à survivre dans la campagne. Ça veut dire qu'il a une culture, on ne lui avait pas appris qu'à égorger les autres avec les dents, mais on lui a appris à se débrouiller tout seul et à pratiquer le partage. Voilà, donc... Pour moi, il est évident qu'au niveau blockbuster, où il s'agit d'en mettre plein la figure, on peut se contenter de cet ennemi sans visage, mais par contre, c'est juste pas à appliquer dans la vraie vie.
Merci Catherine. Alors justement, Alain Damasio parlait de responsabilité finalement des écrivains de science-fiction qui peuvent effectivement mettre en scène des frontières politiques. Moi, j'ai quand même remarqué que finalement, de l'utopie à la science-fiction, parce qu'il y a une filiation entre les deux, même dès l'utopie de Thomas More en 1516, on a une île qui est Utopia, qui est totalement refermée sur elle-même et qui ne veut absolument pas, finalement, s'ouvrir à l'extérieur. Et donc, bon, on peut de toute façon remarquer que cette littérature-là, littérature de l'imaginaire, ou littérature utopique, ou littérature de SF, ne va pas cesser, finalement, de mettre en scène des mondes fermés ou refermés sur eux-mêmes. Et à ce moment-là, évidemment, on va basculer dans ce qu'on appelle la dystopie ou la contre-utopie. Et en général, ces mondes qui se referment sur eux-mêmes, qui sont au départ dans l'utopie, évidemment, des mondes de l'idéal, idéal politique, idéal social, eh bien, sont des mondes privilégiés, finalement, qui se protègent des populations défavorisées. Et ça, c'est une thématique qu'on va retrouver, alors je dirais, sous de grandes formes diverses dans la science-fiction, des sortes de fermetures égalitaires de frontières, des fermetures politiques. Alors, justement, Catherine, dans le de l'immortalité, il me semble que tu as justement mis en scène différents mondes comme ça qui sont refermés. Donc, quelle importance pour toi cela peut avoir cette problématique-là ?
Alors, je pense pas qu'il y a besoin de science-fiction pour imaginer des mondes où les riches se protègent des pauvres. Il y a un petit temps de ça, j'étais allée passer des vacances en Hongrie et il y avait des Ferian camps. Et donc, c'était des camps avec des fils de fer barbelés et des maîtres chiens, sauf que c'était pas pour empêcher les gens de sortir, c'était pour garder les grosses berlines allemandes qui étaient garées. Les Allemands venaient passer leurs vacances en Hongrie parce que c'était beaucoup moins cher. D'un autre côté, ils avaient des berlines, ils avaient peur qu'on les leur vole, et donc ils avaient leurs petits bungalows, leurs grosses berlines et des fils de fer barbelés avec des maîtres chiens tout autour. Et j'avais trouvé ça juste monstrueux. Et ce genre de choses se développe à toute vitesse. Il y a de plus en plus d'endroits où on construit des murs pour protéger les riches contre les pauvres. Et il y avait une photo aérienne particulière. Il y avait au milieu d'une favela un immense building et au sommet de la building une immense piscine avec un nombre considérable de palmiers. Et pareil, des tessons en haut des murs. Et je crois qu'on assiste à une explosion de ce type de faire Young Kampf qui, moi du temps où j'étais jeune, je pensais que ça appartenait à l'avenir de la science-fiction la plus noire et la plus dépressive, mais en fait pas du tout, c'est déjà largement en place.
Oui, parce qu'on a l'impression, par exemple, que ce sont des images qu'on va retrouver notamment dans les romans de Pierre Bordage, dans les romans de Jean-Marc Ligny, et puis Alain, je crois que c'est quand même une problématique importante aussi de votre œuvre, notamment dans la zone du dehors.
Ouais, dans la zone du dehors, mais justement, c'est dans la zone du dehors, c'est plus la problématique de est-ce qu'il y aurait une extériorité au contrôle, quoi. Est-ce que dans une société absolument contrôlée comme la nôtre, il y aurait encore un dehors possible? Et le titre dit tout, c'est-à-dire que il y a un dehors possible. Le dehors lui-même a été ramené à une zone, quoi, qu'on peut circonscrire, qu'on peut essayer de piloter, qu'on peut bon. Moi, ce qui me sidère, la question est très belle, c'est-à-dire que la question que tu poses, elle est de dire aussi, comment se fait-il, non seulement qu'on crée des mondes fermés, et que c'est vraiment un tropisme de la science-fiction de créer des mondes fermés qui s'affrontent ou sur lesquels le passage de la frontière est important. Mais on est dans le présent, voilà, on est dans le présent, on s'appuie sur le présent. Est-ce qu'on contribue au présent ? Ça, c'est moi les questions parfois que je me pose. Est-ce que, en valorisant de façon épique et lyrique ces oppositions de zones fermées, est-ce qu'on ne facilite pas dans l'imaginaire le fait qu'elles adviennent aussi, quoi ? Est-ce qu'en croyant les dénoncer, on n'est pas en train de les ancrer dans les imaginaires, quoi ? Là, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Là, encore hier, voilà, on fait des rafles à Calais. À Calais, on bloque les migrants, on crée des zones hallucinantes où il y a une jungle avec 6000 personnes. Et puis ensuite, ça fait vraiment trop de monde. Donc, notre super gouvernement socialiste fait des rafles et renvoie les gens dans des centres de détention en France. Bon, on a des systèmes comme ça hallucinants de concentration collés aux frontières, parce que ça arrive dans beaucoup de pays maintenant. On a une vraie politique du barbelé, hein, ça se déploie un peu partout. Là, j'ai vu une carte récemment dans l'Hebdo Loin, les cartes de tous les murs qu'il y a en Europe, et je ne parle pas du mur entre les États-Unis et le Mexique, qui est super long. Donc forcément, on s'inscrit là-dedans, on essaye de retourner, et on essaye surtout de créer une porosité dans ces murs-là, dans les échanges entre les deux côtés d'un mur, et on essaye de faire, moi, en tout cas, l'objectif pour moi, c'est de faire une sorte de littérature de l'empathie, quoi, une littérature qui soit capable de montrer qu'est-ce que ça produit d'être de l'autre côté, justement, du mauvais côté du mur, parce que ceux qui créent les murs, faut savoir, hein, ceux qui créent les murs, c'est toujours une seule personne, hein, c'est pas les deux qui créent le mur, hein, c'est celui qui se protège qui crée le mur, voilà. Et l'autre, il le prend dans la gueule et il s'écrase dessus en attendant d'essayer de passer, quoi, tu vois. Donc voilà, moi ça me... Ce qui est horrible, voilà, c'est d'avoir le sentiment qu'on est là sur la crise des migrants, on est face à des thèmes qui sont très science-fictionnesques, effectivement. Et on se dit, mais comment, nous, on peut mettre en récit ça d'une façon qui crée le choc de conscience, qui crée le choc imaginaire, qui va retourner, justement, l'imaginaire du bon côté, quoi, voilà, dans le bon sens. Et ça, c'est compliqué, ouais.
Alors, ce qui m'a frappé aussi, c'est en travaillant sur cette thématique, c'est que tous les romans de science-fiction, alors on demandera après évidemment à Norman par rapport à la littérature américaine, mais toutes ces fermetures inégalitaires dans ces romans-là aboutissent, ont des conséquences apocalyptiques, c'est-à-dire que on sait très bien que ce n'est pas viable. Pourquoi ? Tout simplement, enfin ça c'est peut-être une question qu'on peut mettre en débat aussi, mais parce que l'humanité s'est construite finalement sur la migration. Sans la migration, par exemple, à l'époque préhistorique, jamais l'humanité ne se serait développée partout sur la planète, voyez ? Et donc moi je me dis, ce que la science-fiction nous renvoie à l'autre bout finalement de la chaîne chronologique, c'est que si nous nous refermons, ça veut dire que nous nions quelque part ce qui a fondé notre humanité. Alors voilà, moi la question c'est pourquoi finalement toutes ces visions apocalyptiques n'ont aucun impact ou quasiment pas sur les réflexions concernant la réalité, Norman.
That's a long and complicated question, but the United States was a country built by immigrants, bandits, pirates, people who were thrown out of Europe, that's the United States. There's a thing about utopias. If you're trying to write a utopian novel, it's not going to work because it's going to be boring. There's not going to be any conflict, and you don't have a story.
C'est un récit statique, effectivement.
You have a big crisis here, a huge crisis, with immigrants. These people aren't really immigrants. They're refugees. They're refugees from a civil war, a terrible war, and they're here to save their lives, basically. Initially, they are welcomed, and then it gets out of hand. There's too much of it. As I say, Wolfgang Jeschke wrote a really great... I wish I could remember the name of the book. In English or in German. I don't know if it was ever published. It was his last book he wrote before he died. And he predicted the whole thing. At first, because it's a climate change book, and northern Africa is just pouring into Europe, not because of the civil war, but because of the ecological catastrophe. At first, they are welcomed, and then it just gets out of hand. Why science fiction hasn't come up with a solution to something that nobody else has come up with a solution to, I don't know. But I think it's a moral question. It's a moral question. And if you're writing science fiction, serious science fiction, basically you're dealing with moral questions and the concept of, you know, what's one culture's benefit is another culture's disaster. But I wrote the closest thing I wrote in a way to a utopia like this is Bleu Comme un Orange, a greenhouse summer where you have the research chauffage, you have the climate change, you have Siberia become Siberia the Golden. It's wonderful. They've got everything. It's warm. There's no more socialism. There's no more capitalism. It's a syndicalist anarchist state. But like with important political part played by the descendants of Mafia and Tong. So it's by no means a utopia, but the people are better. There's a point in the book where it looks like the planet is going to be destroyed by the heat wave, which has benefited Siberia, which has benefited the gangster Tongs, and they have to make a decision about whether they give up what they've got, whether Siberia comes back to being an icebox, whether the Tongs lose a lot of money. These people, unlike, you know, what the reality is today, they're certainly not perfect people, but their attitude is, well, if that's what we got to do, that's what we got to do. No question about it. We don't like this very much, but we have to do it. And I think questions like what's going on now with refugees here, or whatever you want to call them, they are refugees. They are not immigrants. They're, for the most part, not economic. There's a difference between economic immigrants who are coming here because they can make more money and people who are fleeing a war that's going to kill them if they don't get the hell out of there. So initially, say in Germany, they were welcomed, they were greeted, they were, you know, helped. And now it's just overwhelming. It's too much. The Greeks who, you know, was royally screwed by the European Union and Germany and Merkel, horrible shit. Nevertheless, they are doing the, you know, they're doing what they can for the people who show up on their shore. So I think that the real question here is sort of transpolitical that science fiction might be able to do something about. It's a moral, what's needed is not a scientific evolution, but a moral evolution. It's saying this is really tough stuff, but it's obvious. It's obvious what's got to be done. It's going to cost money. It's going to be a real problem, but we can't just let these people drop dead en masse on our territory. We can't do it. So I don't know why it falls to science fiction to solve this problem, probably because nobody else has any idea.
Mais la science-fiction n'a pas, normalement, la science-fiction n'a pas trouvé de solution. Elle dit simplement, quand on ferme comme ça des mondes, en fait, on va vers l'apocalypse. Et c'est ce que nous disent finalement les romans de science-fiction. Mais après, c'est vrai, il n'y a pas de solution forcément proposée.
Well, there's going to be a solution because something is going to happen. The war has to be stopped by military force. People have to be settled. In the old days, the way America was built, it would be very simple. They would say, well, we got this big empty continent. Come here and start a farm. You know, we give you the land, or we take it away from the Indians and give it to you. And that's how America grew. With, you know, people fleeing royalist dictatorships, criminals, stuff like that. Australia was the same thing. So it's possible, maybe, to find some place like that where there's room for these people. It costs some money to get them there. It costs something to set it up. But to put them in a place where they are not destroying the very culture that is trying to save them. I don't know where that is offhand.
Merci, Norman. Catherine,
vaste
une
question.
Réflexion à ce sujet.
Oui, vaste question, vaste débat. Bon, déjà, moi, je voulais préciser que je trouve qu'il n'y a juste pas trop de migrants, parce que dans nos pays vieillissants, la migration, c'est plus une solution qu'un problème. Par contre, il est évident que tout le problème, c'est la condition dans laquelle s'est faite cette migration. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui viennent là par plaisir, ce sont des gens qui viennent là pour fuir ce truc abominable qu'est la guerre. Mais ça m'est arrivé de passer par un pays en guerre, c'est juste... la grosse dépression et qui ont à souffrir la peine énorme de l'exil. Mais pour répondre à la question pourquoi la SF n'a pas trouvé de solution, parce qu'on n'a pas trouvé la solution, la vérité c'est parce qu'on ne veut pas trouver la solution. Alors quand je dis on, je parle des gens qui ont le pouvoir en ce monde. Vous êtes tous au courant qu'il y a quand même 1% de la population qui possède 80% des richesses. Et les décisions se font... c'est eux qui peuvent prendre les décisions, puisque c'est eux qui ont le pouvoir et cet avatar matériel du pouvoir qu'est l'argent. Et de quoi est constituée leur fortune ? De pétrodollars, énergie fossile, qui pose les problèmes qu'on sait, de narcodollars, qui est quand même basé sur la pénalisation de la drogue, et des blood dollars, c'est-à-dire l'argent de la vente d'armes. Je crois que la vente d'armes, c'est le plus gros commerce qui existe en ce monde. Donc, tant que... ces gens-là n'ont aucun intérêt à se laisser ruiner. Hein, quand il n'y aura plus de narco-dollars, plus de pétrodollars et plus de blood-dollars, ils n'auront plus rien. Et ils n'en ont pas envie. Ils ont les moyens de faire ce qu'ils ont envie. Donc, si la planète est à feu et à sang, si, comme le dit Natacha, mettre des frontières, ça ne marche pas, je répondais oui, mais ce n'est pas fait pour marcher. Ils n'ont pas envie que ça marche. Ils n'ont pas envie que les guerres s'arrêtent. Ils ont envie qu'elles continuent et même qu'elles s'amplifient. Donc là, on est dans un véritable problème qui est politique, qui est que tout simplement le pouvoir politique n'est plus entre les mains du peuple, mais entre les mains de quelques-uns. Et ces quelques-uns ne sont pas bien intentionnés vis-à-vis de la population dans son ensemble.
Merci Catherine. Alors nous allons revenir, parce que je vois le temps qui passe quand même. Nous allons revenir, là on est sur une frontière temporelle malheureusement. Nous allons revenir sur finalement les premières remarques que vous avez pu faire. C'est-à-dire que là nous avons beaucoup parlé effectivement de frontières géographiques, spatiales, puisque c'est ça qui pose des problèmes tant évidemment dans l'imaginaire que dans la réalité. Donc les frontières dans la science-fiction ne sont justement pas uniquement spatiale. Et moi, je voudrais qu'on revienne sur cette notion que Alain, tu as pertinemment donc exposée tout à l'heure. Est-ce que finalement, si les écrivains de science-fiction se tiennent sur les frontières au sens large, est-ce que c'est justement parce qu'elles ne veulent pas explorer aussi les frontières de l'humain ou peut-être éclater ces frontières de l'humain ? Aujourd'hui, on parle beaucoup de transhumanisme, de post-humanisme, c'est-à-dire qu'on va au-delà de l'humain. Donc, est-ce que l'humain, je dirais au sens finalement naturel, anthropologique, ne constitue pas une frontière et que la technologie ne nous amène-t-elle pas au-delà de cette frontière, justement ?
Ouais, moi je voudrais revenir là sur les migrants parce que ça me paraît fondamental aujourd'hui.
Ah oui, tout à fait.
Le problème c'est pas le transhumanisme, le problème c'est devenir très humain quoi. Voilà, comment on va devenir très humain ? On voit bien sur les migrants que le problème il est là, c'est-à-dire que on n'a pas la capacité d'accepter ou d'accueillir des Syriens parce qu'on comprend pas que ces Syriens, ils sont comme vous et moi quoi. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à visualiser, à imaginer ou à se mettre dans la situation mentale de dire ces gens-là souffrent, j'ai de l'empathie envers cette souffrance. Et à partir de cette empathie, je vais ouvrir mon pays à l'accueil de ces gens-là. Quoi. Voilà. On trouve 1000 raisons économiques, sociales, politiques pour ne pas les accueillir, alors que c'est juste des gens comme nous et moi. Et là, c'est une responsabilité politique de l'écriture, elle est cruciale. C'est-à-dire que nous, on a une capacité en tant qu'auteur, c'est la capacité à créer l'identification à des personnages. C'est-à-dire à faire ressentir une situation et les affects et les émotions et les sensations d'une situation. Donc si on arrive à faire éprouver aux gens ce que c'est d'être un migrant, ce que c'est d'être un réfugié, ce que c'est que traverser 4 pays et la mer Méditerranée pour arriver chez nous et se prendre un mur ou se prendre Calais ou se prendre une redistribution en centre de rétention, si on arrive à le faire, on peut avoir une prise. Voilà, on peut avoir une prise sur la façon dont l'opinion publique, le grand public, va accepter ou non ces migrants. Pour l'instant, on fait tous, et la plupart des gens, on est comme ça. On plonge la tête dans le sable, on se dit oh là là c'est horrible, c'est vraiment dur quand même, c'est oh là là j'aimerais pas être à leur place, mais surtout on fait pas l'effort imaginaire, on fait pas l'effort intérieur pour vraiment se mettre à la place d'eux. Et nous, auteurs, on a au moins cette possibilité de favoriser cette empathie, de favoriser ce moment où tout d'un coup, vous allez vous identifier à un personnage, suivre sa trajectoire, vivre ce qu'il a vécu, l'éprouver et se dire « Ah ouais, d'accord, c'est ça quand même. » Voilà. Donc là, moi je me dis, et en tout cas, moi ça me pose problème dans mon prochain livre, à la fois sur Fusion, là, le prochain livre que je fais, et sur Les Furtifs, j'ai un personnage justement qui est une réfugiée iranienne. Et ça me met une pression énorme en ce moment de me dire comment je vais restituer ça d'une façon suffisamment puissante, suffisamment frappante sur les imaginaires, suffisamment plus pertinente, juste, vraie et véridique, pour que voilà, les lecteurs, tout d'un coup, le flash se fasse, quoi. Et ça, moi, c'est ça qui me tue, c'est que l'étranger reste étranger. L'étranger reste quelque chose qu'on veut pas se dire que c'est nous, voilà, c'est tout, quoi. Et ça, un sacré boulot à faire là-dessus, hein.
Well, you know, one thing that people don't like to face, they'll read it in fiction, but in reality, they really don't like to face it, is a situation that is inherently tragic, that really doesn't have a good solution, that satisfies everybody. If you have 2 million, who knows how many, refugees from a war in Syria pouring into Europe, in practicality, what can you do? What can you do? Can you really absorb 2 million people in a space of a few months? Who's going to feed them? Where are they going to live? Where are their toilets? It's a terrible thing. It's a terrible dilemma, even if you're trying to do the best you can. Even though you're being totally moral about it, you can face a situation that doesn't have a happy ending. Now, there are plenty of books like that, but not too many of them. And usually they are trilogies, which get solved later on. But you now have a situation here, I think, which is a very large-scale, genuine tragedy. If I knew how to solve this thing, I would write something to solve this thing. I haven't seen anybody come up with anything reasonable. I mean, all right, if you discovered an Earth-like planet that wasn't occupied and we had some kind of way of getting people cheap there, there's your solution. In centuries ago, that planet was the United States or Australia. So just go to a place where there's plenty of land, grow your food, do your thing. But we don't have this kind of solution now. And I myself really don't like to write tragedies that have a tragic ending. So I haven't written anything about this. Well, Wolfgang did, and it was a tragedy. And I think... As writers, whether it's science fiction or whatever it is, the only way to right now write about this situation is as a tragedy, because tragic is what it is, and I don't think anybody right now has a way out with the best of moral intentions.
Alors finalement, ce que je retiendrai de vos interventions, je dirais que là, on peut essayer de réfléchir sur le post-humain ou le transhumain, c'est-à-dire aller au-delà finalement des frontières de l'humain. Mais en réalité, le fondement même de la réflexion, peut-être chez les écrivains, c'est comment tout simplement être humain.
Hein? Complètement, voilà. C'est comment être humain, c'est... et aller au bout de l'humain, quoi. Exactement. Comment être très humain, voilà, c'est vraiment ça. Transhumain, aujourd'hui, ça sert absolument à rien à partir du moment où c'est pas être humain, quoi. Voilà, c'est tout. Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, nous avons une sorte de, par rapport à ces gens qui nous projettent dans l'avenir, hein, parce que c'est vraiment, ce sont des mouvements d'idées, des mouvements technologiques qui sont quand même aujourd'hui, qui essaient de prendre le devant de la scène, alors qu'en fait, on n'a pas encore réglé Et on est très loin de l'être, d'avoir réglé finalement tous les problèmes qui sont liés à la simple humanité. Voilà. Donc, est-ce que ce sera le mot de la fin, ou est-ce que vous voulez que nous rajoutions, Catherine, peut-être rajouter un petit mot par rapport à tout cela avant de passer aux questions du public ?
Non, c'est un très beau mot de la fin.
Voilà. Bon, merci. Donc, voilà. Donc, merci à vous. Donc, maintenant, nous allons donner la parole au public. Vous avez vu que c'est un sujet brûlant, hein, entre guillemets, vraiment un sujet d'actualité qu'on a peut-être à traiter justement, du mal à traiter sur le mode de la science-fiction, de l'anticipation, de la projection. Donc c'est peut-être un sujet qui évoque chez vous de nombreuses questions. Donc voilà, on n'en a pas des réponses politiques, hein, malheureusement, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais vous pouvez poser vos questions. Ah, il y a quelqu'un au fond, je crois. Non, personne au fond. Ah, pardon.
Oui, bonjour. J'ai une question à poser, mais il faut que je pose une petite réflexion. Je vais essayer de faire court juste avant quand même. Par rapport à ce que vous avez raconté sur le rapport à l'autre, vous avez parlé beaucoup des différences, des frontières psychologiques. En psychologie sociale, il y a ce qu'on appelle le paradigme des groupes minimaux qui a été élaboré par le professeur Tachfeld, qui montre qu'il suffit de séparer un groupe d'individus en deux sur un critère complètement arbitraire pour qu'on voit déjà des conflits intergroupes apparaître. Dans ses expériences, il a séparé les gens fictivement sur leur préférence pour Clio Kandinsky. C'est un critère absolument absurde. Et ensuite, il leur donne une somme d'argent à dispatcher entre les membres des deux catégories, et il observe constamment qu'on a tendance à privilégier les membres de son propre groupe. Je ne vais pas aller plus loin sur ce type de travaux-là. Je conseille aux gens de la salle d'aller voir la leçon de discrimination sur YouTube, qui est en trois parties, qui va beaucoup plus loin que ça. D'accord ? Ça m'évoque également un épisode d'une série que j'aime bien, qui s'appelle Babylon 5, où il y a un épisode où, en fait, un groupe d'extraterrestres qui s'appelle les Drazi se battent entre eux. Le capitaine de la station demande pourquoi est-ce qu'ils se battent. Leur explication, c'est qu'ils ont tiré au hasard dans un tonneau un foulard vert, un foulard violet, et que c'est la seule justification qui explique pourquoi ils se battent entre eux. Et finalement, quand vous disiez tout à l'heure, et c'est là où j'arrive à ma question, que respecter l'autre, c'est être humain, on se rend compte, en fait, et c'est ce que la psychosociale semble montrer, que ça fait partie dans notre façon d'envisager le monde que de créer des frontières sur des dimensions qui peuvent être la religion, l'ethnie, les préférences culturelles, le métier, les pauvres, les riches. Est-ce que finalement, être humain pour respecter l'autre, c'est pas d'abord prendre conscience que nous avons en nous tous cette tendance à catégoriser les gens, à extrémiser les différences qu'il y a entre nous, ce qui n'est pas quantifiable d'ailleurs, ce qui est purement de l'ordre de la représentation. Être humain, finalement, respecter l'autre, est-ce que c'est pas combattre cet humain qui est en nous? Je sais pas si j'ai été clair.
Oui, oui, si, si. Vous avez été clair.
Merci.
Qui veut répondre ?
Non, c'est très bien.
Qui veut répondre ? Catherine ?
Non, mais je trouve ça très bien aussi.
That's not Norman. A question, that's a speech.
Bon, je suis désolée, vous n'aurez pas de réponse parce que votre question comportait en fait peut-être la réponse. Donc merci beaucoup de votre intervention. Je crois qu'il y avait le monsieur devant qui voulait poser une question et après une autre personne là-bas. Oui. Allez-y.
Alors, rebonjour donc à tous les trois. Vous aussi, madame. Je fais qu'une question, sinon je ne vais pas y arriver. C'est la notion de frontière, moi, que... Comment dire ? Il y a Régis Debray qui a publié un éloge de la frontière. Et en fait, on est en train de la redéfinir. Donc, j'ai une question. Je vais les donner à la suite, les questions, pour éviter deux, puis celles qui ne plairont pas, vous les laissez. Première question, est-ce que ce qu'on appelle frontière aujourd'hui, depuis en gros le 19e siècle, depuis qu'on a cartographié toute la Terre, ne serait-ce pas en fait la concrétisation dans l'espace de la loi du plus fort, du triomphe de la propriété privée sur le bien commun et la propriété collective ? Deuxième question, la notion de frontière, elle peut être poreuse, fluctuante. Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen pour les faibles de se protéger du fort ? Exemple, frontière d'un territoire tribal, de chasse, frontière de la ZAD. Dès qu'on passe la ZAD, on voit la frontière. Les lois changent un petit peu à l'intérieur, les lois communes changent, mais il y a bien une frontière à la ZAD. Donc, c'est ces deux questions-là. La notion de frontière actuellement, est-ce qu'elle ne s'est pas cristallisée effectivement avec une histoire de propriété privée, colonialisme, impérialisme, ou avec des miradors, etc. et quelle était-elle avant? Et puis la deuxième question, donc, est-ce que la frontière aussi peut protéger les faibles? Voilà. Merci.
Well, without getting too deeply into the politics, it is. I think we are living, you know, in a period where communism has failed, where capitalism is also failing, and this is, in some kind of way, all over the world, a pre-revolutionary situation, because what we have now doesn't work. And it doesn't work because it can't work. In scientific terms, there are too many black holes in it, too many singularities. What you're seeing, what happened in Greece versus the European Union, you know, it doesn't work. What you're seeing in America with the 99% versus the 1%, well, in the end, you have people who have a lot of money and other people who can't have no money and can't buy the things that the people who are making the money are making the money with. It doesn't work. So I suppose that, and I've been doing this to some extent lately, trying to imagine, trying to think of what would work after the fall of these two fallen world models. Sharia Islam isn't going to work either. There's too many faults in it. We need to find different models. I guess that's what you're saying. And I don't know. Maybe you have something that you're promulgating here. Or maybe I have, too. Maybe it's a kind of syndicalist anarchism, which is what it is in Blue Camon Orange. But I think we should, you know, maybe this is our obligation or opportunity as writers of speculative fiction and readers of speculative fiction to try and come up with something that works, because what we have now doesn't work.
Merci, Norman. Moi, je voulais juste une toute petite remarque pour donner la parole à une dernière personne pour une autre question. Si vous regardez, par exemple, le modèle de l'utopie chez Thomas More, vous avez en fait un modèle de société qui est refermé sur lui-même et qui a finalement aboli la propriété. Vous voyez, on est sur la base, finalement, du collectivisme. Mais c'est quand même, vous voyez, c'est-à-dire que c'est... Même dans une sorte de modèle, évidemment, idéal de l'humain, hein, ce qui est l'utopie, qui de toute façon est un lieu qui n'existe pas, eh bien, on a cette espèce de paradoxe, c'est-à-dire à la fois, on crée des frontières pour se protéger, pour ne pas finalement être corrompu moralement, et en même temps, à l'intérieur, on se laisse une zone de liberté. Donc je crois que c'est un problème qui est vraiment particulièrement complexe. Hein, et je ne pense pas qu'on ait le temps, malheureusement, de trouver une solution, mais c'est bien, évidemment, d'avoir posé la question. Donc une autre question, peut-être ? Il y avait une personne. Oui ?
Oui, bonjour. Moi, j'avais une question. Une question plus que dans les rapports propriété privée, propriété publique. En droit, classiquement, on définit la frontière comme la limite physique qui définit la souveraineté politique d'un État ou d'un peuple. Je pense qu'en France, on est beaucoup attaché au principe de souveraineté, dans toutes les démocraties issues des révolutions 1700-1800. Et cette souveraineté-là, est-ce que en science-fiction, d'un point de vue narratif, est-ce qu'il y a un avantage? Est-ce qu'il y a quel est l'intérêt de la paix entre les peuples d'un point de vue narratif dans un roman de science-fiction? Parce que, par exemple, dans Star Wars, une société qui est définie par des castes, où il faut éradiquer tantôt les Jedi, tantôt les Sith. Dans Tolkien, on éradique les trolls, les gobelins, sans se soucier de qui ils sont. Dans 1984, on a un état de guerre cyclique entre les différents peuples. Quel est l'intérêt d'un point de vue narratif de la paix entre les peuples? Est-ce que vous auriez envie d'écrire un roman de science-fiction où tous les peuples sont en paix et il n'y a pas de frontières?
Alors on avait essayé, on s'était dit on va faire un super recueil de nouvelles d'utopie et ça fait quelques années, donc on attend toujours la première nouvelle. C'est vrai, là, vous avez mis le doigt dessus. Il y a un ressort narratif dans la guerre qu'il n'y a pas dans la paix. Maintenant, le monde est tellement une béchamel au caillot qu'il peut y avoir un vrai ressort narratif dans une tentative désespérée de trouver une solution à tout ce micmac. Donc, je pense pas qu'on soit obligé de n'écrire que sur le malheur et l'accroissement du malheur. On peut essayer aussi de se baser sur un accroissement du bien-être de chacun. Ça peut aussi être un ressort narratif.
Donc, merci Catherine. Donc, nous allons remercier nos intervenants pour cette belle table ronde, hein, qui a soulevé des questions essentielles. Et merci aussi au public.